Le livre des brèves amours éternels de Andrei Makin, extrait lu par Martine Bressan. L'infime minorité. Depuis ma jeunesse, le souvenir de cette coïncidence revient, à la fois insistant et évasif, telle une énigme dont on ne désespère pas de trouver le mot. Voici les faits. Un jour de printemps, j'accompagne jusqu'à son domicile un ami, un homme souffrant qui, soudain, me propose de passer par le centre-ville, allongeant notre trajet d'un crochet inexplicable. D'autant qu'il ne doit pas aimer cette ville, dans le nord russe où chaque rue lui rappelle sa vie tourmentée. Près de la clôture d'un parc, il s'arrête, saisi d'un accès de toux, se détourne, une main collée à sa bouche, l'autre serrant un barreau de fer. À ce même moment, une femme descend d'une voiture, à quelques mètres de l'endroit de notre halte. Un garçonnet qu'elle tient par la main nous jette un regard de curiosité apeurée. À ses yeux, nous ressemblons à deux ivrognes pris de nausée. La gêne que j'éprouve n'efface pas un sentiment plus vague, plus difficile à fixer dans une pensée. Obscurément, je devine que notre détour n'a pas été fortuit, tout comme l'apparition de cette belle inconnue. Elle passe, nous laissant un rapide ondoiement de parfum, amer et glacé, et déjà la porte d'un des immeubles entourant le parc s'ouvre, le gardien laisse entrer la femme et l'enfant. Mon ami se redresse, nous reprenons la route. La coïncidence, sa fuyante bizarrerie, s'inscrit incidemment en moi pour revenir tout au long de ma vie et rester si longtemps sans réponse. Aujourd'hui, il doit y avoir dans le monde à peine une demi-douzaine de personnes à se souvenir de Dmitri Ress. Ma mémoire n'a préservé que deux fragments, très inégaux. Deux éclats de mosaïque que, ne connaissant pas Ress, on croirait désunis. D'abord, cette parole articulée avec une maladresse douloureuse par l'un de ses familiers. Il l'aimait comme on ne peut être aimé, qu'ailleurs que sur cette terre. L'autre fragment, son activité d'opposant, était d'habitude raconté avec la même hésitation confuse. Ce n'était pas le manque d'intérêt que les vivants finissent par témoigner à un héros oublié. Non, plutôt l'incapacité de saisir la raison profonde du combat que Ress a mené jusqu'à sa mort. Une lutte à la Don Quichotte pour certains, un suicide qui a duré 20 ans pour les autres. Au moment de notre rencontre, âgé de 44 ans, chauve, édenté, miné par un cancer, il avait l'air d'un octogénaire souffreteux. Additionnant ces trois condamnations successives, on obtenait un total de 15 ans et quelques mois passés derrière les barbelés. La sévérité des peines tenait à l'originalité de son credo. Philosophe de formation, il critiquait non pas l'état spécifique du régime en place dans la Russie d'alors, mais la servilité avec laquelle tout homme en tout temps renie l'intelligence pour rejoindre le troupeau. « Mais pourquoi alors vous vous acharnez contre notre pays ?» lui demandait-on au cours des interrogatoires. « Parce que c'est ma patrie, » répondait-il, « et voir mes concitoyens sommeiller autour d'un bauge m'est particulièrement intolérable. » Les justiciers y voyaient la pire des subversions. Ils préféraient avoir affaire aux contestataires classiques qui se laissaient expulser vers l'Occident, dont l'indifférence repue émoussait rapidement les plumes les plus acerbes. C'est à l'âge de 22 ans que Dmitri Ress commit son premier délit. La veille du défilé traditionnel dédié à l'anniversaire de la Révolution d'octobre, il colla sur le mur d'un bâtiment administratif une affiche exécutée avec un vrai talent de dessinateur, les gradins où montaient les dignitaires du parti, la marée de drapeaux rouges, des banderoles chargées de slogans à la gloire du communisme, les deux files de militaires qui canalisaient la progression des manifestants. Rien de plus réaliste. Sauf que les notables dressés sur la tribune, ces silhouettes carrées coiffées de chapeaux mous, étaient représentées en cochons. De petits yeux dédaigneux, des groins bouffis de graisse. Les masses populaires, arrivant au pied des gradins, subissaient elles aussi le début de la métamorphose. L'affiche était intitulée « Vive la grande Porchaison ». La faute était grave, mais la jeunesse de l'auteur aurait pu inspirer la clémence. D'autant que son idée animalière n'était pas neuve. Toute la littérature dissidente usait de ce procédé. Solzhenitsyn lui-même assimilait l'un des membres de la nomenclatura à un sanglier brutal et lubrique. On aurait pu plaider l'étourderie, l'influence de mauvaises lectures. Malheureusement, le jeune homme se montra orgueilleux, affirmant avoir peint ce qu'il voyait, décidé à dénoncer ce bestiaire. Une attitude indéfendable. Les juges, néanmoins, firent preuve de mansuétude. 3 ans dans une colonie à régime ordinaire. Le camp, au lieu de le faire fléchir, le rendit inflexible. Libéré, il récidiva. Des dessins, des pamphlets qui tombaient déjà sous le coup d'une qualification plus lourde, la propagande antisoviétique. En un mot, il s'enferra. Ce qu'un juge, excédé par tant de raideur, désigna d'une locution russe qui signifie à peu près « se faufiler dans le goulot d'une bouteille ». Si seulement il avait suivi la logique des opposants qui déblatéraient contre le Kremlin et divinisaient l'Occident. Mais non, lui n'en démordait pas. Sa production picturale et littéraire visait l'humanité tout entière et sa patrie n'était qu'un exemple parmi d'autres. Une peine de 5 ans sembla ne pas trop l'émouvoir. Une autre, la dernière, dans un camp à régime renforcé, le brisa physiquement, mais conféra à ses convictions la fermeté d'un silex. Il ressemblait d'ailleurs à un long éclat de cette pierre et son regard jetait parfois des reflets ardents, les battitudes d'une pensée indomptée dans un corps défait. Ce que j'ai appris sur cette vie meurtrie se limitait au décompte des 3 condamnations et à quelques rares détails de son quotidien de prisonnier, et aussi à ce surnom de poète que ses co-détenus lui avaient attribué et dont j'ignorais si le sens était dépréciatif ou approbateur. Rien d'autre. Res mettait son point d'honneur à ne pas évoquer ses souffrances. Notre seule longue conversation a eu lieu dans une ville du nord russe, à 900 km de Moscou, la région de son assignation à résidence, durant les 6 mois qui lui restaient à vivre. C'était le jour du 1er mai. Je l'accompagnais chez lui et nous dûmes patienter un moment à l'entrée d'un pont bloqué à cause du défilé qui se déroulait sur la place principale. Accoudé à la rambarde, nous voyions la procession qui avançait le long d'un bâtiment massif, siège local du parti. Sur l'étagement des gradins se dressaient des rangées de manteaux noirs et de chapeaux de feutre. La journée était ensoleillée, mais glaciale et venteuse. Les rafales apportaient des fragments de marches militaires, des bribes de slogans lancés par les haut-parleurs, le rugissement sourd des colonnes de participants qui reprenaient à tue-tête ces mots d'ordre officiels. Imaginez! Cette même mise en scène de l'Extrême-Orient jusqu'à la frontière polonaise, murmura Ress avec le ton rêveur qu'on adopte pour évoquer une contrée fabuleuse, et de l'océan Arctique jusqu'au désert de l'Asie centrale. Les mêmes gradins, les mêmes ports à chapeau mou, la même foule abrutie par cette comédie, le même défilé sur des milliers et des milliers de kilomètres. L'idée me frappa. Je n'avais jamais pensé à ce flot humain qui se relayait d'un fuseau horaire à l'autre, 11 en tout, à travers l'immense territoire du pays. Oui, dans toutes les villes, sous toutes les latitudes, la même messe collectiviste. Devinant ma perplexité, il se hâta d'ajouter. Et dans les camps, croyez-moi, c'est pareil. Des tribunes occupées par les matons les plus gradés, un orchestre composé de repris de justice mélomanes, des calicots rouges, gloire, vive en avant. Partout, je vous dis, un jour, on transportera ces gradins sur la lune. Un coup de vent souffla en écho à ces paroles. « Vive l'avant-garde héroïque de la classe ouvrière !» Ress sourit en plissant fortement ses lèvres sur une bouche sans dents. « Ah, ces tribunes ! En Occident, on a écrit des tonnes de gloses pour expliquer la société où nous vivons, sa hiérarchie, l'asservissement mental que subit la population. Et on n'a rien compris. Tandis que là, il suffit d'ouvrir les yeux. » L'apparatchik en chef, on le voit d'ici, au centre de la tribune, un chapeau noir et ce visage plat comme une crêpe. Autour de lui, avec le minutieux respect des précédences, ses sbires. Plus ils sont loin de lui, moins ils sont importants. Logique. Le modèle suprême reste la tribune officielle de la place rouge. Un peu de militaire, afin que le peuple sache sur quelle puissance repose l'autorité du parti. Et le plus intéressant, ces enclos qui divisent la tribune en secteurs. Dans celui de droite, ce sont des chefs d'entreprise, l'administration du port fluvial, quelques syndicalistes haut placés, et pour ne pas oublier les prolétaires, 3 ou 4 travailleurs de choc. Bref, la crème des forces productrices. Quant aux forces peu productrices, mais utiles au régime, on les place à gauche. Recteur de l'université, rédacteur en chef des journaux locaux, mandarin du monde de la médecine, une paire de littérateurs, l'intelligentsia, en un mot. Et juste au pied de l'appareil dirigeant, l'enclos familial où sont parqués les épouses et les enfants. Il fut saisi d'une quinte, se pencha, et sur sa tempe s'enfla une grosse veine bleue, tressaillante sous la peau transparente du crâne. Je voulus dévier la conversation. « Bon, vous savez, le peuple se fiche pas mal de ses tribunes. » Il se redressa et son regard me brûla. « Non, le peuple ne s'en fiche pas, il en a besoin. Cette pyramide de tête de porc lui est nécessaire comme l'expression cohérente de l'architecture du monde. L'agencement des enclos le rassure, c'est sa religion laïque. Et ce crétin qui hurle les slogans dans le haut-parleur est l'exact équivalent d'un pope qui prêche. » Il parvint à retenir un nouvel accès de toux, son cou frémit, son visage devint pourpre. Sa voix résonna, syncopée, vigilante au spasme qui nouait sa gorge. « Ne généralisons pas, ces manifestants ne sont pas tous pareils. On pourra définir trois classes. La première, l'écrasante majorité, est une masse conciliante qui aime ce confort de troupeau. La deuxième catégorie est faite de ricaneurs, issus surtout de l'intelligentsia. Ils répètent encore les slogans, mais leur cri est un jeu, une moquerie. » Ils agitent les drapeaux avec une frénésie railleuse et brandissent les portraits des dirigeants sur leurs hampes comme s'il s'agissait d'une tête hissée sur une pique. Enfin, la troisième catégorie est celle des révoltés, assez naïfs pour espérer rompre ce défilé grotesque. Ils écrivent des pamphlets, dessinent des affiches et... Il se remit à tousser, une main sur la bouche, l'autre attrapant la rambarde du pont. La courbure de son corps maigre, sous un vieil imperméable, faisait penser à une branche cassée. Le passage venait d'être rouvert, le défilé touchait à sa fin, on voyait la foule se disperser dans les rues voisines.